musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission du Centre français des musiques juives, présentée par Hervé Rotten.
Sugar.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey, now I'm wild over honey child.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir, et bienvenue à notre rendez-vous mensuel du Centre français des musiques juives. Notre objectif, comme à l'accoutumée, vous faire découvrir chaque mois la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi celles d'aujourd'hui. Et ce soir, justement, notre émission sera consacrée au renouveau des musiques judéo-espagnoles, avec l'émergence depuis quelques années d'une nouvelle génération d'artistes fermement décidés à bousculer ce répertoire de chants traditionnels. Et à ce titre, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir le groupe Mazal, composé de Emmanuel Rouvray et Thomas Baudrier, qui viennent de sortir chez Tzadik un album décoiffant de musique séfarade dans une déclinaison électro particulièrement originale. Sera également présente dans la seconde partie de cette émission l'ethnomusicologue Jessica Roda, qui nous parlera des phénomènes d'actualisation et de patrimonialisation, on verra ce que ça veut dire, des musiques judéo-espagnoles. Mais avant de commencer, une petite précision sur le terme judéo-espagnol qui recoupe ici ce que l'on appelle parfois en Israël ou aux États-Unis le ladino. Il s'agit tout simplement des musiques qui ont été véhiculées, transmises par les Juifs expulsés de la péninsule ibérique en 1492, il s'agissait de l'Espagne, puis en 1497 du Portugal, et qui ont trouvé refuge dans diverses terres d'accueil, comme bien sûr l'Afrique du Nord, notamment à Tétouan, Tanger, Oran, et plus particulièrement dans l'Empire ottoman, Istanbul, Salonique, Izmir, Edirne, Rhodes, Safed, etc. Et selon Sami Sadak, historien, les chants judéo-espagnols ont été collectés, rassemblés et transcrits, notamment au début du XXe siècle, principalement par des musiciens comme Alberto MC, Léon Algazi, Moshe Atias, Yitzhak Levi, principalement dans les pays balkaniques, en Turquie et en Israël. Et ces chants d'exil s'exprimaient dans un judéo-espagnol que l'on appelle parfois le judio, ça c'est au Levant, ou le raquetia au Maghreb. Pour illustrer cet aspect des choses et vous montrer justement à quel point ce judéo-espagnol s'est imprégné des langues et des musiques des pays dans lesquels les juifs, issus de la péninsule ibérique se sont installés, je vous propose d'écouter dès à présent une petite surprise musicale. Il s'agit d'un medley, d'un chant turc très connu qui s'appelle Uskadara, et que vous allez entendre dans quatre versions, donc la musique turque elle-même, puis la façon dont les juifs judéo-espagnols l'ont transformée, elle a été ensuite appropriée par les Grecs, puis par les Bosniaques. Et enfin, comme les Ashkénazes n'étaient pas de reste, ils l'ont également transmise dans la musique klezmer, et on entendra en dernier lieu ce qu'en a fait un groupe qu'on a eu récemment sur l'antenne, le groupe Anachronique Electro-Orchestra, donc justement de l'électro-ashkénaz ou électro-klezmer, ce qui nous fera une bonne introduction.
Abdul Hamida
Drugi nosi britku sablju, hrabrog murata, hrabrog murata. Éclaire le boulevard. Comme la luna est la sua faccia qui éclaire le boulevard. Volevo parlar chatametni because her father was a lagar.
Volevo parlar chatametni because her father was a lagar.
Et con sua umbrella darabetni.
Il s'agissait d'un montage d'un disque de Judith Cohen qui s'appelle « Dans mon chemin, j'ai rencontré » avec donc le dernier disque sorti par Anachronic Electro Orchestra. Et tout ceci pour illustrer le voyage des musiques juives, à quel point ces musiques sont imprégnées des différentes cultures, langues, des différents pays d'accueil où se sont installés les juifs. Et puis également montrer à quel point ces musiques sont des passerelles entre ces musiques traditionnelles qu'on a écoutées au début et aujourd'hui la façon dont elles sont déclinées. Et je pense que Emmanuel Rouvray et Thomas Baudrier, bonsoir.
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 Je pense que cette approche ne vous surprend pas tellement, puisque en fin de compte, dans le disque que vous sortez aujourd'hui, votre disque qui s'appelle donc Atzeri Kohen Selanik, un disque sorti dans le label Tzadik, vous utilisez également ces passerelles, ces fusions entre cette fois-ci la musique judéo-espagnole et d'autres types de musique. Alors, ma première question, c'est pourquoi ce disque ? Et d'abord, qu'est-ce que ça signifie, Atzeri Kohen Selanik, Emmanuel ?
Alors, Atzeri Kohen, en fait, c'est un titre qu'on a inventé. Il s'agit de deux chansons qu'on a mixées ensemble dans l'album. Donc, c'est Atzeri Kohen, c'est Atzeri Kohen de 15 años.
Ce donc, qui signifie
Atzeri Kohen, donc c'est un prénom féminin. Atzeri Kohen de 15 ans. Et Amor en Selanik, qui est un autre morceau, une autre chanson aussi qui existe. Selanik, donc c'est Thessalonique, la ville de Thessalonique en Grèce. Et donc ces deux chansons, en fait, ont pour un thème commun l'exil. Donc les gens qui se perdent de vue, qui s'aiment et qui se perdent de vue, donc qui se cherchent. Ces deux chansons ayant le même thème, on les a regroupées dans une seule chanson.
Dans une seule chanson, évidemment très intéressante et très originale. Je vous propose dès à présent de l'écouter pour
parfait.
Que nous puissions continuer après.
Selanik enterro, yo lo caminé.
Cherico and Selanik, extrait du disque du même nom par le groupe Mazal, une nouveauté discographique qui vient de sortir donc, chez Tzadik, toujours en compagnie de Emmanuel Rouvray et Thomas Baudrier, les seuls, les principaux et les seuls interprètes de ce disque. Alors moi je suis un peu très curieux parce que voilà une vision du judéo-espagnol qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Comment vous est venue l'idée de faire ce disque?
Ben c'est vraiment un pur hasard, en fait. On s'est rencontrés, Thomas et moi, et on a mis ensemble en fait, nos différentes musiques. Voilà. Donc moi, à cette époque-là, je travaillais sur justement ce répertoire-là. J'essayais de récupérer des collectages et de m'approprier ce répertoire. Et Thomas était en pleine composition de musique électronique. Et on a vraiment croisé nos univers musicaux. Et puis ça a donné d'abord un premier album très confidentiel et beaucoup plus planant que celui-ci qui est plus dansant. Et on l'a fait écouter à des amis qui nous ont dit mais c'est ça marche vachement bien quoi.
Oui, c'est voilà, vrai que c'est vraiment
aussi
intéressant.
C'est ça. C'est, voilà,
donc c'est un mariage artistique en fait qui a donné ce beau fruit.
Oui.
Et, très très bien. Et vous me disiez que vous intéressiez, vous chantiez des musiques judéo-espagnoles de quelle manière auparavant, traditionnelles enfin, comment...
Oui, de façon plus classique avec un guitariste, accompagné par un guitariste ou une violoncelliste.
Et où, oui.
Et puis cette démarche de voyager et puis de me donner en fait un but de voyage. D'aller à la recherche des populations séfarades dans différents endroits du monde, puisqu'on les retrouve un peu partout. Et puis m'intéresser en fait aux petites histoires dans la grande histoire, savoir ce qui ont amené les gens à se déplacer, à habiter là, est-ce qu'il leur reste des champs, qu'est-ce qu'ils ont comme souvenirs. Voilà, des photos, des rencontres comme ça, très, très humaines et très informelles, quoi, vraiment sur le thème du voyage.
Et c'est ce que vous avez en fait réinsufflé dans cet album.
Voilà, ouais.
Très bien.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la culture juive n'est absolument pas notre culture d'origine, en fait. Donc c'est vraiment une démarche de curieux et qui a été faite très spontanément, d'une façon assez naïve. Donc vraiment avec énormément de recul, énormément de distance, et après on s'est laissé complètement embarquer par la qualité de ces mélodies et de ces textes sur lesquels on s'est vraiment appuyé pour travailler ce répertoire-là à notre façon quoi. Donc avec je pense pour certains auditeurs peut paraître assez insolente. De par le fait qu'on à part les mélodies et le texte, on ne respecte absolument rien de ce qui a pu déjà être fait dans ce répertoire-là. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas contenter de s'inspirer de ce qui s'est déjà fait. On a vraiment pioché différents éléments et différentes choses, différents éléments sonores et matières sonores d'origine très très différente en fait.
Alors je vous propose justement d'être à nouveau insolent avec nos auditeurs en écoutant un deuxième extrait de ce très bel album, El Padre. Très originale de ce père. Je ne sais pas si le El Padre et le père juif traditionnel va se reconnaître là-dedans, mais c'est très intéressant ce que vous disiez, Thomas, sur... En fait, c'est une véritable démarche compositionnelle que vous avez eue. Vous avez utilisé c'est comme un matériau thématique.
Complètement. En fait, vraiment, encore une fois, on a vraiment on a gardé de ces musiques originales que la mélodie et le texte. Après, tout le reste, du coup, n'est que fantaisie et vraiment, enfin, que des choses vraiment composées, et donc c'est des arrangements très très libres, vraiment.
Et ça va rejoindre, je pense, ce que va nous dire après la musicologue Jessica Roda sur la façon dont les musiques juives aujourd'hui sont transmises et sont surtout véhiculées, en fin de compte. On est plus dans l'interprétation que dans une tradition encore vécue, je crois.
En fait, moi, je pense que la musique traditionnelle ne peut vivre sa vie qu'en étant... disons que la maltraitance du répertoire lui permet de vivre et d'exister, quoi. C'est justement l'insolence dont je parlais tout à l'heure qui permet à la tradition de vivre. Voilà.
C'est bête. De toute façon, cette tradition toujours évolué ça fait partie même du sens de la tradition, c'est qu'elle n'est pas statique. Je vous propose justement d'écouter un troisième extrait, Dos Amantes.
Thank you.
ballon d'essai peut-être ce disque, mais que je trouve fort réussi. Et ça m'amène à vous poser une question essentielle, c'est est-ce que vous avez l'intention de récidiver ? Est-ce que vous avez dans vos dossiers des projets de disques encore, de cette sorte-là
ah bah oui,
ou autre ?
Des chansons, il y en a plein. Et justement, quel plaisir d'en découvrir de nouvelles sur des enregistrements déjà aussi faits par d'autres chanteurs et chanteuses. Et puis c'est aussi l'occasion de d'autres voyages. Oui, on a vraiment envie de continuer dans cette veine-là. Et ces chants sont très beaux. Enfin, c'est vraiment un coup de cœur avec ces chants, et puis surtout avec cette langue aussi. Cette langue de mélange, cette langue jonction entre l'Orient et l'Occident. C'est toujours un très très beau moment à vivre, et on a encore plein de chansons dans notre besace.
Bah écoutez, on vous réinvitera pour le prochain album, j'espère le plus
tôt
possible. On va écouter une dernière chanson de cet album que je vous encourage vivement à vous procurer. Donc l'album Achariko en Selanik, qu'on peut se procurer partout, je crois, donc publié dans le label Tzadik. Et nous allons écouter à présent sur un thème traditionnel, à la Una, une version revisitée par le groupe Mazal. Thomas Baudrier, merci infiniment d'être venu nous présenter votre disque ce soir. Et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant la musicologue Jessica Roda, spécialiste du renouveau des musiques judéo-espagnoles. Jessica Roda, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Jessica, tu es une jeune ethnomusicologue. On se connaît déjà depuis quelques années et tu as à ton actif un certain nombre de publications importants, et je dois dire que je suis assez impressionné, et notamment dans le domaine des musiques judéo-espagnoles. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots d'abord pourquoi ce travail sur les musiques judéo-espagnoles et comment t'es venue cette vocation ?
Alors, comme tu le disais clairement, Hervé, je pense que c'était en 2004, je souhaitais faire un travail de recherche sur les musiques juives. Suite à un questionnement identitaire. Et donc, j'étais au Canada à l'époque et je lisais plusieurs ouvrages dans ce domaine-là. Et je suis tombée sur le fameux livre sur les musiques juives, les musiques liturgiques juives écrit par Hervé Rotten. Et lorsque je suis revenue en France, donc j'ai voulu contacter ce cher monsieur Rotten, et j'ai eu l'opportunité de travailler sur l'œuvre du compositeur Alberto Remsi. Et donc à travers ce travail musicologique sur son œuvre, donc Alberto Remsi, pour rappeler, c'est un compositeur qui a transcrit un certain nombre de chants judéo-espagnols dans tout l'Empire ottoman, et qui a, à partir de ce travail de transcription, a fait des compositions, 60 au total, qu'on appelle les coplas séfardis. Et puis suite à ce travail, je me suis posé la question, puisqu'on parlait beaucoup donc de cette culture musicale, de ces judéo-espagnols, et surtout il y avait eu, j'avais pu lire à travers différents travaux qu'il y avait une importante immigration judéo-espagnole en France. Et alors que j'étais quand même assez insérée dans la communauté juive en France, mais séfarade on va dire, j'avais jamais entendu parler clairement de cette culture judéo-espagnole. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé
à t'intéresser à cette culture et à cette musique judéo-espagnole.
Voilà.
C'est vrai que la musique judéo-espagnole, je me rappelle, était le parent pauvre un petit peu des musiques juives. On entendait partout déjà à l'époque, mais ça ne fait pas si longtemps que ça, les musiques klezmer, la musique yiddish, la musique judéo-espagnole, oui, mais beaucoup moins. Donc, c'est important le travail que tu mènes. Et donc, ce que je proposerais, c'est que tu as souhaité nous faire entendre un extrait d'un air judéo-espagnol très connu. Alors, je te laisse annoncer cet air, parce que tu as l'accent maintenant judéo-espagnol, qui s'appelle comment et qui est chanté par qui ?
Los Bilbilicos, donc les rossignols.
Ou c'est la Rosanne Florence, je crois, que tu as préféré nous faire entendre en premier.
En fait, le titre de la Rosanne Florence, c'est Los Bilbilicos. Il y a deux titres. Parce que justement, il y a différentes versions. Et
Tout ça, c'est très juif. Hein. On dit deux juifs, trois avis. Et là, c'est pareil pour les musiques juives, en fait. On a une musique et 50 titres.
Exactement. Surtout au niveau du texte qui change souvent. Mais la mélodie, d'ailleurs, c'est le même chant qu'on va entendre tout au long de l'émission. Mais le premier extrait est dans un style, on va dire, traditionnel, ethnographique. Et c'est Angel Lazar, enregistré en 1948.
La rosa en florece hoy en el mes de marzo, mi alma se oscurece fiéndose el luna.
La Rosa en Florence par Lazar Angel dans un enregistrement qu'on pourrait qualifier d'ethnographique. D'ailleurs, ce qui me surprend dans cet enregistrement, c'est une voix de femme.
C'est une voix d'homme.
C'est une voix d'homme. On hésite beaucoup parce que ce répertoire de musique, de chansons judéo-espagnoles, est-ce qu'il n'est pas traditionnellement attribué aux femmes ? Est-ce que les hommes chantent aussi ? Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots, en fait ?
Alors, c'est une très très bonne question, puisque c'est vrai qu'à l'origine, dans la plupart des travaux, on dit que c'est un répertoire associé aux femmes, puisque c'était un répertoire qui était relié à une réalité sociale. Donc, on avait des chants de mariage, des chants pour bercer les enfants. Donc, c'était essentiellement les femmes. Après, les chants, plutôt le travail musical des hommes, c'était beaucoup plus à la synagogue. Simplement, à partir du moment où les premiers enregistrements de musique judéo-espagnole qui datent de 1907 sont tous enregistrés par des hommes.
Alors, étonnant, pourquoi ? Est-ce que c'est un machisme ambiant ? Enfin, quelle est la raison à cet état de fait ?
Alors, mon hypothèse, c'est que tout simplement qu'on a commencé en faisant des enregistrements, on a voulu professionnaliser cette musique-là d'une certaine façon, lui attribuer un statut social et la diffuser. Et étant donné que dans le judaïsme, même si les judéo-espagnols, pour la plupart, étaient quand même pas forcément très, très orthodoxes, c'était plutôt un judaïsme traditionnaliste, à partir du moment, au début du XXe, surtout, lorsqu'on a voulu diffuser cette musique-là, c'était beaucoup plus les hommes qui avaient la place sur la scène musicale. Et un autre élément, c'est que la plupart, beaucoup de musiciens professionnels judo-espagnols étaient des hommes. Mmh. Donc évidemment, c'était beaucoup plus simple d'aller... Les hommes avaient déjà l'habitude de chanter professionnellement. Donc c'est un peu pour ça que...
Et est-ce que ça ne relève pas aussi d'un interdit un petit peu religieux ? Comme vous le savez, dans le judaïsme, la voix des femmes, c'est un peu comme les cheveux qu'il faut cacher. Et les femmes, d'ailleurs, leur répertoire est domestique, chanté à la maison. Donc est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça aussi...
Complètement, complètement. C'est exactement ça.
Donc c'est encore
ça.
Une chose que les hommes ont pris aux femmes.
Oui,
donc
on
ne manifestera pas. Mais c'est quand même assez terrible. Et alors, j'ai encore une question à vous poser. Est-ce qu'on entend encore aujourd'hui beaucoup de chanteurs ou de chanteuses qui chantent de cette façon traditionnelle?
Alors, en France, je n'en ai pas rencontré dans mon travail de terrain en France. En Israël, parce que j'ai fait un petit travail comparatif en Israël en 2008, j'en ai rencontré quelques-unes, mais elles étaient déjà très âgées, à peu près 80, 90 ans. Et j'en ai rencontré une à Lyon, je dis des bêtises, qui s'appelle Eliane Benbanast, qui elle a reçu une transmission par son père. Mais c'est la seule que j'ai pu rencontrer. Je pense qu'il y a eu une certaine forme de mise en veille de cette pratique, de ces pratiques musicales, notamment en raison de l'assimilation, du changement évidemment du contexte social et puis de la Shoah aussi.
Et de la Shoah. Donc il y a aussi, comme pour la musique yiddish par exemple, cassé beaucoup de choses. Bah, écoutez, tout ça est très très passionnant et je vous propose peut-être d'écouter dès à présent un second extrait. Donc je pense que c'est toujours sur le même thème puisque vous avez souhaité nous faire entendre, en fait, décliner ce thème de façon musicale très différente, et c'est ça qui est passionnant. Et après, vous pourrez nous parler justement de votre recherche, je crois. Donc, Los Bilbilicos, chanté par Judith Frankel. Los Bilbilicos dans une version de Judith Frankel dans un disque qui date, je crois, des années 90 ou quelque chose comme ça. Jessica Roda, on est très loin de ce qu'on a entendu précédemment, de la version traditionnelle, déjà accompagnement instrumental, c'est pas la même façon de chanter, le timbre de voix évidemment est complètement différent. Comment on peut expliquer ça?
Alors, là, justement, c'était l'intérêt de passer justement de l'enregistrement ethnographique à ce qu'on peut appeler la mise en scène ou le mouvement revivaliste un petit peu de cette musique. Judy Frankel, elle est américaine, elle est d'origine ashkénaze. Elle s'est intéressée au répertoire judéo-espagnol un petit peu par hasard. Elle est tombée amoureuse de cette musique-là. Elle a fait un vrai travail de collecte. À partir des années 60, fin 1958, le premier disque qui nous fait basculer d'une certaine façon, de l'enregistrement ethnographique à l'éclatement des cadres référentiels. C'est-à-dire qu'auparavant, les Juifs espagnols étaient dans l'Empire ottoman, donc on avait un cadre référentiel esthétique assez fixe. C'était l'Empire ottoman, dans un style, comme on a entendu auparavant, un petit peu turquisant. Et là, 1958, puis même un peu avant, les Juifs espagnols, début du XXe, les Juifs espagnols migrent dans divers territoires, États-Unis, France, Israël, Amérique latine, Canada, etc. Et là, évidemment, il n'y a plus de cadre référentiel fixe, il y en a plusieurs, et surtout à cause de cette mise en veille et de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, on n'a plus forcément de cadre référentiel, donc on veut donner un nouvel élan. Et ce nouvel élan va être donné par Gloria Levy, qui en 1958 enregistre le premier disque de folk revival, de chant judéo-espagnol. Et Julie Frankel suit un petit peu ce parcours de Gloria Levy, puisque c'est vrai qu'elle a un timbre de voix qu'on peut aussi qualifier, je pense, dans l'esthétique de folk revival. Mais bon, l'accompagnement est avec un bouzouki, donc on est dans un cadre référentiel grec.
Ce que vous appelez cadre référentiel, en fait, c'est une espèce de reconstruction territoriale. C'est-à-dire que comme ils n'ont plus le foyer, par exemple, moi je vois mes beaux-parents sont à Istanbul, donc il y a toute une culture dans laquelle ils baignaient. Et ils ont aussi quitté la Turquie quand ils sont arrivés en France, donc il n'y avait plus ce cadre et cette culture. Donc là, en quelque sorte, vous dites que ça a été recréé à travers la musique, c'est cela que vous voulez dire?
Exactement, hein. Exactement.
Ah oui, donc c'est passionnant. Et chacun à sa manière, on voit qu'ici, il y a l'influence du revival américain, mm-hmm. puisque Judith Frankel est américaine. Et c'est ça que vous appelez un phénomène de patrimonialisation, je crois, parce que vous préparez une thèse sur ce sujet.
Non? Oui, d'une certaine façon, je vais aller assez rapidement, mais je me suis intéressée à la patrimonialisation pour tenter de comprendre justement cet éclatement, comme tu viens de le dire, des cadres référentiels. Et surtout parce qu'il y a eu une mise en veille et la Shoah. Comment se fait-il qu'après à peu près 40 années, on retrouve justement il y a un boom de ces musiques-là et qu'elles apparaissent sur les scènes de festivals, chez les disquaires, etc. Eh bien, je me suis donc intéressée, mais comment ça se fait? Donc, on a pu voir que c'est parce qu'au début du XXe siècle, on a commencé, enfin, les judo-espagnols eux-mêmes, notamment l'élite comme Alberto Remsi, ou bien des Espagnols aussi comme Angel Pulido, ont commencé un travail de collecte. Un travail de matérialisation des pratiques. Et ça, c'est un petit peu la patrimonialisation. La patrimonialisation, c'est la mise en mémoire. Et c'est ce qui constitue aujourd'hui, selon moi, l'identité musicale judéo-espagnole, parce qu'on ne peut plus vraiment parler d'une tradition musicale, puisque, évidemment, les judéo-espagnols ne chantent plus comme au début du XXe siècle. Et puis, qui c'est qui chante ces musiques-là? Ce sont des artistes professionnels. Donc, c'est grâce à cette patrimonialisation.
D'accord. Eh bien, je vous propose justement d'écouter une autre forme de patrimonialisation que vous nous avez apportée, donc toujours sur ce même air, donc Los Bilbilicos ou La Rosane Florence. Il s'agit cette fois-ci d'un swallow song chanté en anglais, et vous nous le commenterez peut-être après. Swallow Song. Donc c'est un c'est chanté par qui exactement?
Alors c'est chanté par Richard Farinha et sa femme Mimi. Alors The Swallow Song, c'est également le chant du rossignol. J'ai voulu mettre ce chant-là pour montrer à quel point finalement le patrimoine judéo-espagnol, donc comme un corpus, comme une petite boîte dans laquelle on peut puiser et dans laquelle Richard Farinha a puisé pour faire un chant populaire de variété, donc de Swallow Song. Ils ont repris la mélodie de Los Bilbilicos, ils ont mis des paroles en anglais et puis bon, ils ont mis ça dans leur disque de musique de variété. Et donc ça montre à quel point ce patrimoine est également un objet d'inspiration pour plusieurs artistes et puis surtout qu'il continue à pas à évoluer mais à vivre. Parce que bon, cet enregistrement date des années 70, mais ce n'est pas un phénomène isolé. On écoutera un peu plus tard un autre groupe qui reprend aussi un air traditionnel et puis qui change les paroles. Bon, quelque chose de typiquement qui se faisait très quotidiennement dans les communautés judéo-espagnoles et puis dans la plupart des communautés juives aussi.
En fait, tu veux dire par là que non seulement ce répertoire judéo-espagnol est sorti de son contexte traditionnel, donc il a été mis en scène en quelque sorte, mais qu'il inspire et qu'il irrigue maintenant d'autres courants de musique et des artistes qui sont d'ailleurs pas spécifiquement juifs. D'ailleurs, phénomène qu'on retrouve dans beaucoup d'autres musiques juives aujourd'hui, comme le klezmer ou même la chanson yiddish, enfin, qui inspire beaucoup d'autres artistes de différents horizons. Oui. Ça, c'est vraiment intéressant.
Et je voulais juste ajouter un autre exemple de ce phénomène d'adaptation. Lorsque j'étais en Israël en 2008, donc j'étais dans une synagogue, comme je ne me souviens plus laquelle, à Jérusalem, et tout d'un coup, j'entendais l'air « Quando era Nimrod » avec des paroles en hébreu, puisque c'était liturgique. C'était comme ça. On ne dit pas que c'était un chant judéo-espagnol, mais c'était quand même un chant judéo-espagnol. Donc tout ce phénomène d'adaptation se retrouve dans divers territoires musicaux.
Oui, c'est tout à fait exact. Je l'ai entendu aussi dans différentes liturgies. Et ça, c'est justement qui est passionnant dans les musiques juives, c'est ces passerelles qui se font entre non seulement les différents répertoires, c'est-à-dire profanes et liturgiques, mais également entre le monde juif et le monde non-juif.
Exactement.
Écoutez, comme cette émission touche bientôt à sa fin, est-ce que vous pourriez nous dresser en quelques mots un bref état des lieux de la scène judéo-espagnole aujourd'hui et puis aussi peut-être nous dire, selon vous, quel est un petit peu l'avenir de ces musiques?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est un important boom, notamment en France, avec l'action des associations. C'est-à-dire que cette musique-là, qui quand même n'avait plus de réalité sociale, aujourd'hui, elle en a une nouvelle à travers le biais des associations et des festivals. Ça, c'est parce que la plupart des gens disent « Ah, mais c'est fini, elle n'est plus chantée en contexte traditionnel. » Oui, mais malgré tout, elle continue d'exister. Et on retrouve beaucoup, assez régulièrement, j'entends des musiciens, des chanteurs qui s'inspirent et qui veulent utiliser ce patrimoine pour leur propre composition. Donc, elle change et elle continue de vivre. Ça, c'est quelque chose d'important à signaler. À titre d'exemple, j'ai appris récemment que l'association Aquí Estamos voulait éventuellement faire une chorale pour enfants, une chorale judéo-espagnole, un petit peu comme l'équivalent qu'il y a eu à Istanbul. Donc, un autre exemple de renouveau.
Et on a entendu juste avant le groupe Mazal qui a sorti ce disque sur la musique électro-séfara. Donc, c'est encore, j'allais dire, une autre voie qui s'ouvre dans la fusion de ces musiques judéo-espagnoles séfarades avec d'autres types de courants. Là, c'est de l'électro. On a pu avoir, on l'a vu, du folk. Enfin, voilà. Donc, où vont les musiques judéo-espagnoles? Elles continuent à s'ouvrir.
Exactement.
Et c'est peut-être comme ça qu'elles vont continuer à survivre aussi.
Tout à fait. Oui. Ça, c'est, voilà, avec l'exemple de Mazal, on est vraiment...
Eh bien, écoutez, je vous propose d'écouter un dernier extrait que vous nous proposez. Donc, l'extrait nous vient de Turquie, je crois, toujours sur le même thème, La Rosa Yastaim. Son yolculuğu senin Alors donc, c'est un groupe turc, et je crois en fait que c'est un autre air, c'est, vous m'avez dit, c'est sur l'air Adio Querida.
Adio Querida, exactement. Bah, voilà. C'était tout simplement pour montrer l'adaptation aussi en turc.
Et Adio Querida, ça veut dire quoi en judéo espagnol?
Au revoir, ma chère amour.
Eh bah, ben, c'est justement ce que nous allons dire à nos auditeurs ce soir. Jessica, merci infiniment pour cet éclairage passionnant sur l'évolution des musiques judéo espagnoles. Donc, chers amis, notre émission touche à sa fin. Le mois prochain, nous parlerons et nous écouterons d'ailleurs de la musique juive baroque avec la parution d'un nouveau CD dans la collection des patrimoines musicaux des Juifs de France. Si vous souhaitez donc réécouter cette émission ou les précédentes et réagir aux propos de notre invité ou proposer des thèmes pour des prochaines émissions, vous pouvez nous contacter sur le site du Centre français des musiques juives www.cfmj.fr ou par téléphone au 09 77 71 96 57. Pour nous accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir le groupe Mazal, composé de Emmanuel Rouvray et Thomas Baudrier, ainsi que l'ethnomusicologue Jessica Roda. La présentation de cette émission a été réalisée par Hervé Roten et David à la technique. Le Centre français des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission du Centre français des musiques juives, présentée par Hervé Roten.
I'm
sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things